RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bienvenue. C'est parti pour les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. 3 heures de discussion, de liberté d'expression avec vous, bien sûr, au 32-16. C'est vous aussi qui faites cette émission. Avec autour de la table aujourd'hui, Bruno Poncet, le cheminot. Salut Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Charles Consigny, notre avocat. Salut
Bonjour
Charles.
Bonjour à tous.
Et puis Barbara Lefebvre, professeure d'histoire géo. Bonjour Barbara.
Bonjour les amis.
Tout à l'heure, on parlera quand même de cette idée de payer plus cher pour passer plus vite devant un médecin. Il y a une société privée qui a plusieurs cabinets, notamment à Paris, et qui propose de vous faire payer 30 euros de plus, en plus de la consultation, pour obtenir finalement un rendez-vous en 24 heures chez le médecin. Une sorte de fast-pass, vous savez, comme chez Disneyland. C'est un coup de fil. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Lucie Castet, qui est conseillère municipale de gauche à Paris, trouve ça inadmissible parce que c'est une médecine à deux vitesses. Mais en même temps, si vous avez les moyens et si vous avez, vous n'avez pas le temps d'attendre, est-ce que c'est pas une bonne idée de payer un peu plus cher? Qu'est-ce que vous en pensez? On en parlera tout à l'heure à 10h. Mais d'ici là, on va revenir quand même sur ce qui fait l'actualité de cet été, malheureusement. C'est cette France qui fait face aux incendies avec deux feux qui reste préoccupant ce matin, celui du Var, toujours très actif, et puis celui de Gironde, qui progresse. 12 000 personnes et pas mal de touristes ont été évacués. 2 000 hectares déjà brûlés entre Somos et le Porge, au nord du bassin d'Arcachon. La presqu'île du Cap Ferret est désormais inaccessible en voiture. Et le procureur de la République de Bordeaux a décidé de taper du poing sur la table. Il en a marre de ceux qui jettent les mégots, de ceux qui font n'importe quoi. Il veut les mettre en garde à vue.
La cigarette tue tout doucement 250 milliards de morts par an. C'est pas la vie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique.
Ça, c'est le tube préféré de notre réalisateur Thibault. Ça fait 20 ans qu'il nous le met dès qu'on parle de la cigarette. Mais c'est bien, ça fait des droits d'auteur pour son chanteur.
C'est qui? Severino, oui, c'est clair.
Severino, bien sûr. Alors, la cigarette tue et la cigarette brûle. Et parfois, quand ça brûle, ça tue aussi, puisque je rappelle qu'il y a eu deux sapeurs-pompiers qui ont perdu la vie en Gironde. Et donc, le procureur, il en a marre. Et donc, il a décidé de durcir le ton. Jusqu'à présent, c'était une amende, une contravention de quatrième classe, si on était interpellé en train de jeter un mégot. Désormais, il a donné ordre aux policiers et aux gendarmes de placer systématiquement en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui, ceux qui sont effectivement qui commettent des faits d'imprudence et qui provoquent des incendies avec les conséquences qu'on connaît. Est-ce qu'il a raison? Le 32-16 pour intervenir, Barbara Lefebvre.
Premièrement.
Tu n'as pas l'air convaincu par
ça. Non, je suis pas convaincu parce que premièrement, il faut déjà prendre la personne en flagrant délit. Alors ça, bon courage, parce qu'à mon avis sur 20 personnes qui jettent un mégot, peut-être que si t'arrives à en prendre choper un en flagrant délit, c'est bien.
Il a détrompe-toi, puisque Renaud Gaudel, parce que c'est son nom, a demandé aux forces de l'ordre et de gendarmerie de multiplier les opérations de contrôle.
Ah oui, bien sûr.
Et de tout surveiller, et dès qu'il trouve une personne qui est en train de mettre le feu accidentellement ou bien sûr d'une façon criminelle, hop, garde à vue.
Je pense qu'ils vont donc, en tout cas, plus de bleu dans la rue et plus de bleu sur le bord des routes. Moi, je trouve ça très bien parce qu'on devrait, on devrait en avoir plus. Alors, une fois qu'ils sont en garde à vue, ils vont être déférés? Parce que la question, elle est là. Moi, on peut mettre les gens en garde à vue, mais derrière, il faut que le procureur de la République défère ensuite la personne, qu'il y ait une traduction, puisque c'est un flagrant délit, comparution immédiate, et derrière, qu'il y ait une sanction, parce que si c'est...
Il risque un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende par les articles 223.1, 223.18 et 223.20 du Code pénal.
Écoutez, pour l'émission, j'ai regardé un certain nombre de choses sur les incendies criminels. Je parle pas des pyromanes, puisqu'il y a une dimension psychiatrique, mais pour les incendies criminels, en France, l'incendie volontaire qui a entraîné la mort, bon, ça peut aller jusqu'à la perpétuité. Oui. Et quand il n'y a pas de décès, ça peut aller entre 15 et 30 ans. Quand vous regardez la réalité des condamnations, c'est entre 6 mois et 3 ans ferme. Donc on voit quand même que les juges ont la main légère sur la question des incendies criminels. Donc espérons que maintenant que la France flambe et qu'on n'est même pas à la moitié de l'été, que les juges auront la main un peu plus lourde.
Donc il ne suffit pas de la fermeté du procureur, il faut que le juge derrière soit aussi ferme.
Oui. Dans ce cas-là,
Consigny.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Barbara. Je pense que c'est très difficile d'attraper quelqu'un qui jette un mégot. Faut vraiment.
On en a attrapé à Fontainebleau, hein.
Oui, ah, qui mais jetait des mégots, qui avait des trucs dans la main.
Il y en a un qui a été retrouvé.
Il avait son mégot dans la main.
Bah oui.
Il faut vraiment avoir de la chance, quoi, disons, oui, pour tomber sur le moment pile où le gars jette son mégot sur le bord de la route.
Il peut être dénoncé par quelqu'un aussi.
Surtout s'il est sur l'autoroute et qu'il jette son mégot par la fenêtre.
C'est compliqué.
Donc je...
Mais il envoie un message, je pense. C'est une façon
exactement,
aussi d'envoyer un message.
Je pense que c'est simplement de la com pour essayer d'éviter que les gens bêtement ne jettent leur mégot dans la forêt. J'ose espérer quand même, vu l'ampleur des incendies qu'il y a en ce moment en France, que les gens ont compris qu'il fallait pas jeter son mégot près d'une forêt, oui, et de façon générale essayer dans la mesure de le mettre dans un cendrier.
Je sais pas si t'as entendu dans le Var où il y a encore cet incendie, ils sont obligés, le préfet a été obligé encore de faire passer le message, pas de barbecue aujourd'hui et demain parce que le Mistral est de nouveau là. Donc si t'es obligé de faire passer ces messages, c'est qu'ils ont constaté qu'il y avait des gens qui continuaient à faire des barbecues alors que une bonne partie du Var est en train de brûler.
Oui, mais je t'avoue que moi, par exemple, qui n'y connais rien, je n'aurais pas forcément différé mon barbecue à cause des années. Je me serais dit que si ça reste chez moi, c'est sous contrôle, etc. Non, mais voilà, il faut faire plus de l'information. Je crois pas trop que ces mesures soient applicables. Je pense pas qu'on les. Tu verras qu'il y aura pas énormément de garde à vue pour mégots jetés dans la nature.
Bruno pensait.
C'est un sujet qui est récurrent en plus chaque année. Après.
À partir de cette année, parce que là.
Je croyais que les mégots s'éteignaient tout seuls maintenant.
Non, pas du tout, Charles.
Il y a pas un truc comme ça.
Ça dépend quelle cigarette. Si tu fumes une gitane maïs sans filtre.
Il y a des gens qui fument tout seul. Il y a des gens qui fument encore des gitanes maïs.
Je pense. Moi, je pense que c'est encore existé. Voilà,
en tout cas, si tout le monde se mettait à la cigarette électronique, on serait tranquille.
Oui, ça c'est sûr, ça réglerait le problème.
Ça leur pète à la gueule. Donc après, pour les incendies,
oui, ça après.
Alors après, il y a aussi le jeteur de mégots. Alors, il y a celui qui fait pas gaffe, et puis celui qui sait très bien ce qu'il fait aussi. C'est ça aussi.
Moi, en ville, tu le vois souvent. Au feu rouge, t'es là, et devant toi, t'as une voiture ou une camionnette, et tout d'un coup, paf, tu vois le mégot qui sort. Ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois.
Oui, parce qu'il n'y a plus de cendrier.
Oui, mais à ce moment-là,
voitures.
Qu'est-ce que je vais faire? Sortir mon portable pour prendre en photo la plaque d'immatriculation? Oui, si je fais ça, on va me dire utilisation du smartphone, 140 euros, 3 points en moins.
Il y en a qui filment et qui mettent ça sur les réseaux sociaux.
Non, mais comme disait Barbara aussi, c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné remettre une présence policière et pas uniquement pour les feux d'incendie, parce qu'à un moment, enfin aussi que sur le trafic de drogue et d'autres choses, je pense que la peur du gendarme a marché très bien il y a quelques années quand il y en avait. Je ne vois pas qu'aujourd'hui elle marcherait moins si tu en remets partout en fait. Et qu'aujourd'hui, quand tout le préfet de Gironde, enfin en fait l'été, lui il a des renforts de CRS et tout pour les plages.
Là c'est le procureur qui a parlé.
Ouais, donc ils ont des renforts pour les plages et tout. Est-ce que tu crois qu'ils ont des renforts aussi pour. Non, à un moment donné, tu ne peux pas démultiplier des gens qui n'existent pas en fait. Donc en fait, à un moment donné, il a déjà du monde sur les plages parce qu'évidemment là-bas c'est compliqué.
Non, mais...
Ceux qui connaissent les plages des Landes, tu vois un peu l'immensité. Donc c'est vrai que tu peux dire oui, les jeteurs, alors tu vas en choper un, tu feras un exemple. Mais comme disait Charles, regarde, Charles, même lui qui est quand même, on peut penser que Charles est quand même sensé.
Non.
Des fois je me pose la question.
Ça, ça n'engage que toi, ça.
Que Charles se dise, si je fais un barbecue, je ne vois pas comment ça peut avoir une incidence. Ben si, en fait, c'est juste un coup de vent, t'as un bout d'étincelle qui s'en va.
Tu l'as dit, nous ne faisons pas de barbecue, hein.
Dans le Jura,
non,
j'ai jamais fait de barbecue.
Les gens, ils font des méchouis.
En cuisine,
vous faites pas de barbecue
dans la cuisine. On n'est pas là à faire des barbecues.
C'est en cuisine, en birque, avec un jean et un petit pull.
T'aimes pas?
Non.
Pourquoi? C'est du charbon.
Les gens sont tout contents de faire leur barbecue. Ils t'en parlent pendant des heures avant, des heures après, des heures pendant.
Mais c'est convivial, le barbecue.
Le gars, il va avec ses viandes au barbecue. C'est son événement de la journée. Ça m'agace.
Ça, c'est ton petit côté Sandrine Rousseau.
Voilà.
Tu n'aimes pas tellement le barbecue. Mais pour revenir à cet incendie en Gironde qui s'est déclaré vers Somos. En fait, quasiment chaque année, il y a un incendie sur place. Donc hier, j'avais un spécialiste qui connaît bien la région qui disait, mais il y a forcément un pyromane ou deux. Enfin, lui, il pense qu'il y a, c'est criminel et que chaque année,
il y a des types
qui, dans les mêmes zones, allument le feu. Parce que c'est pas normal qu'au même endroit, chaque été, il y ait un incendie.
Oui, mais regarde,
on n'arrive pas à l'attraper, visiblement.
Mais je crois que, en plus, c'était là. Mais tu sais, il y a 2-3 ans, il y a eu un énorme incendie dans les Landes. Et en fait, t'apprenais surtout que c'était des forêts privées qui n'étaient pas nettoyées ni entretenues. C'est pas plutôt ça le problème, parce que qui est un pyromane, moi j'entends, mais si tes forêts sont bien nettoyées et tout, peut-être que ton feu tu peux le circonscrire plus vite. Là aujourd'hui, tu vois, un feu qui démarre, il ne s'arrête plus. Regarde, Fontainebleau, c'est pas encore circoncis, excusez-moi.
Non.
Circonscrit.
Non, ça devrait venir.
J'espère.
Ils sont partout. Hein.
Mais en fait, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, le vrai sujet aussi, c'est que chaque année, en été, tu t'inquiètes que ça le feu, mais en fait, pendant 10 mois, tu t'inquiètes pas que ta forêt, elle est pas
entretenue. Mais alors là aussi, c'est une responsabilité individuelle parce que beaucoup disent, notamment dans le Var, où il y a de charmantes propriétés, où les gens veulent avoir des arbres qui arrivent sur leur toit, etc. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ah parce non. que c'est forcément, surtout, tu mets en danger ton habitation. Mais bon, en même temps, c'est plus joli qu'un terrain autour de la maison. Il n'y a rien, où il n'y a pas de végétation.
Mais surtout dans ces départements-là où la végétation, c'est de la végétation sèche. C'est-à-dire, c'est du pin, c'est des choses qui brûlent très facilement, c'est de la garrigue, etc. Je crois quand même. Hein. Mais il faut en parler, bien sûr, parce que c'est important, ça fait partie de l'actualité. Mais je pense aussi que plus on en parle, plus on voit des images, plus ça excite les gens à le faire. Non, non, mais avez des gens, même pas forcément des pyromanes. Hein. On a trouvé des gamins de 12, 13, 14 ans, hein, avec des petites à la Verrière. C'est pas loin, la Verrière, dans les Yvelines. Le gamin, il a été pris avec son briquet. Bon, certes, il devait vouloir mettre le feu à un buisson. Mais pourquoi? Bah, parce que entraîné par ce qu'il voit à la télé, etc. Oui. Et puis, on parle de quelque chose, donc on veut être. Il y a des gens qui ont ce côté un peu déglingué dans la tête.
Il faut faire venir des. Moi, je pense, on en parle avec le monsieur de la sécurité civile. Il faut faire venir ces personnes-là pendant l'année scolaire dans les écoles. Et commencer à expliquer aux gamins qu'un mégot, que n'importe quoi, ça fout le feu.
Il faut les mettre en forêt, faire des tiges, tu vas voir. Il y a du boulot dans les forêts. Moi, je me balade en forêt beaucoup avec mes chiens. Il y a vraiment des endroits. Pourtant, c'est une forêt domaniale. Hein. Moi, je peux vous dire qu'il y a un gros problème d'entretien de la forêt. Oui. Vraiment, quand il y a des tempêtes et tout, il y a des arbres cassés avec des branches qui tiennent par l'opération du Saint-Esprit. Je peux vous dire, vous passez en dessous, vous risquez de vous prendre la branche. Et je trouve que la forêt est assez mal entretenue. On manque de gens, on l'a déjà dit à l'office, l'ONF, etc. Et ben voilà, il y a du boulot. Il y a des gens, on leur fout un mois, deux mois de tige. Il y a des jeunes qui se tournent les pouces. Pas de problème, allez bosser dans les forêts, vous allez voir, il y a du boulot. Et ça vous fera prendre l'air.
Et peut-être que le jeteur de mégots, il peut passer aussi quelques jours avec des pompiers.
Quelques mois.
Des pompiers, voir comment.
Au lieu de le foutre en prison, tu vas pas mettre du travail. Les prisons sont engorgées par un tas de trucs. Tu vas pas mettre en prison. Tu le fais nettoyer des forêts pendant 6 mois, un an.
Oui, mais le problème des tiges, et Charles le dira, c'est que ça demande aussi beaucoup de moyens, parce qu'il faut encadrer tout ça. Donc souvent, les tiges ne sont pas exécutées à cause de ça, parce qu'il n'y a pas les moyens d'encadrement. Oui,
mais alors, dans ce cas-là,
les éducateurs...
Alors, dans ce cas-là, excuse-moi, mais où vont mes 56% qui sont pris sur mon salaire en début de mois? Moi, on appelait ça du salaire différé avant. C'est-à-dire qu'en fait, ça avait après des prestations sociales s'ils en avaient besoin. Ben là, aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, à un moment donné, moi, j'aimerais bien savoir où vont mes 56% de mon salaire, en fait.
Nous sommes avec André qui nous appelle au 32-16 depuis Bordeaux, justement, en Gironde. La Gironde qui, décidément, est en proie aux incendies cet été. Bonjour, André.
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes pompier volontaire. Est-ce que vous pensez que la mesure du procureur, à savoir que désormais, c'est plus une contravention si on jette un mégot, mais c'est un placement en garde à vue et une poursuite pour mise en danger de la vie d'autrui, est-ce que ça sera efficace?
Alors après, malheureusement, il faut choper des gens directement sur le fait. Mais on va dire qu'à défaut de mieux, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que si on voyait qu'on va dire entre guillemets, ils étaient relâchés parce que pour une raison X ou Y, ils ont un problème psychologique ou autre. Donc voilà, je pense que le minimum syndical, c'est ça. Après, à voir éventuellement, mais je pense qu'il faut vraiment, ceux qu'on attrape, il faut vraiment leur faire ramasser épais, quoi.
Vous êtes pompier volontaire en Gironde, vous avez été mobilisé là?
Non, pas encore.
Mais vous avez sans doute l'être, non?
Oui, bon après, quand on débauche là tout avec les collègues le soir, on se rajoute aux différentes astreintes, et ensuite ben, on est appelé, on va là où on nous demande d'aller.
Ouais. Mais que pensez-vous de cet été particulièrement meurtrier déjà, puisque 3 pompiers sont morts au mois de juillet parmi vos collègues, et de cette mobilisation permanente, est-ce qu'on va tenir?
Je l'espère déjà très sincèrement, et avant toute chose, voilà, j'aimerais avoir une très grosse pensée pour mes 3 collègues pompiers, pour leur famille et pour tous leurs collègues de caserne, tous les 10 qui sont impactés. Moi, là où ça fait un petit moment que je le dis, c'est pas trop maintenant que j'ai peur. Ça va être, je pense, l'arrière-saison, c'est-à-dire le mois de septembre.
Pourquoi?
Parce que les réserves en eau vont s'épuiser, le sol va s'assécher encore plus, la végétation va s'assécher encore plus. Et malheureusement, je pense que ce qui nous attend, le pire qui nous attend, ça sera pour le mois de septembre.
D'accord.
Après, moi, je pense que si
tout dépend des conditions météo aussi. On peut avoir un mois de septembre pluvieux.
On verra bien. En général, les mois de septembre ne sont pas trop pluvieux.
C'est vrai, c'est dernier
temps, non. C'est à nos services, à nous d'anticiper. Moi, comme j'ai marqué sur le petit message que j'ai envoyé tout à l'heure, en tant que pompier volontaire, moi, je comprends pas. Il y a des SDIS, enfin, les SDIS en général, ont les coordonnées de nos employeurs. On a surréquisitionné des gens en temps et en heure à l'époque. Je vois pas pourquoi, mais sur décision de justice, on vient pas poser.
À obliger les employeurs à libérer leurs salariés.
Exactement. C'est-à-dire exactement. Si vous voulez pas libérer les gars, pas de problème. Par contre, vous en paierez les conséquences.
Ouais, mais parce que on vous empêche d'y aller. Ça arrive souvent que l'employeur empêche le salarié d'aller prêter main forte.
Ça peut arriver. Moi, je connais quelques collègues. Oui, ça leur arrive. Ils posent des congés parce que bon, mais là, on est dans le feu de l'action. Mais sinon. Un employeur qui va nous libérer spontanément, j'en connais pas non plus.
D'accord. Merci André, merci d'avoir appelé au 3216.
Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.
Merci à vous. Ludovic est avec nous également de Birac en Charente. Bonjour Ludovic, il est paysagiste. Bonjour.
Bonjour.
Que pensez-vous du coup de gueule du procureur de la République de Bordeaux qui dit il y en a marre maintenant, on va passer à un stade supérieur, on va mettre en garde à vue ceux qui provoquent les feux?
Alors, je suis tout à fait d'accord. Je disais Bruno et Barbara, alors c'est rare, mais ça arrive, la preuve. Bonjour à tout le monde, déjà. Et, faut sévir, mais le problème, c'est que des promesses, ils risquent, mais il n'y a jamais d'application réelle.
Donc, vous croyez, c'est plus de la com, quoi.
Ouais, c'est plus de la com. Moi, à un moment donné, les gars qui ont le shop, ok, ils bossent, le week-end, au lieu d'aller se promener avec la famille, ils vont débroussailler, ils vont participer aux tâches dans les forêts pendant 2 ans, 3 ans. Et voilà, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de déconner, quoi.
Ouais, le débroussaillage.
Vous risquez d'avoir quelques associations de droits de l'homme qui vont vous expliquer que c'est de l'esclavage ou du travail gratuit. Je précise ça.
Ben, ces gens-là, j'espère que leur maison s'y accrame et tout. On verra ce qu'ils en pensent derrière. Mmh. Ça, à un moment donné, il faut arrêter conneries, là. Ça, 2 balles, là, je suis désolé, quoi.
C'est pour ça qu'il faut que ça passe par une décision judiciaire, hein, pour pas qu'on puisse s'exposer encore aux chouineries des LDH et compagnie.
On met à Paris une loi.
Non, voilà, faut faire une loi, et puis c'est comme ça, le mec on le chope, je suis désolé, quoi. Vous avez un petit problème, on va vous aligner parce que vous roulez 10 km/h au-dessus, alors là on vous ponctionne tout de suite, un mec qui est soi-disant un peu fou, ou qui est pas responsable, on lui fait rien. Faut arrêter à un moment donné. Mmh. Je pense que la population, si vous faites un sondage là-dessus, je pense que c'est 90% pour.
Oui, c'est sûr.
Ouais.
Ce qui est bizarre, c'est que. Monsieur Attal avait dit, hein, tu casses, tu répares.
Ouais, c'est ça. C'est dans les manifs, c'était tu casses, tu payes. Et ben là, quand tu fais cramer une forêt, tu payes rien, tu répares rien. C'est quand même bizarre.
Et c'est en ça aussi que la parole politique, elle est démonétisée, hein. Blablabla, blablabla. Tu casses, tu nettoies, tu machins. Oui, mais ça n'est jamais appliqué. Voilà. Tous ceux qui ont cassé n'ont jamais rien réparé.
Pourquoi c'est pas appliqué? C'est parce que la justice se suit pas derrière.
Non, c'est comme tu l'as dit, oui, on nous dit toujours qu'il n'y a pas les moyens pour encadrer.
Non, mais je me rends à Charles, parce qu'on a un avocat sur.
Pourquoi qu'est-ce qui n'est pas appliqué? Les tiges?
Oui, les tiges, en fait.
Si, les tiges, ils peuvent l'être. Pourquoi c'est pas appliqué? Risque de me répéter. Vous ne pouvez pas faire tourner un pays avec les 35 heures. Je suis désolé de le dire. Ça ne marche pas.
Il faut tout l'encadrement aussi de toute l'administration.
Mais c'est si tu veux, c'est un ensemble, c'est-à-dire que quand vous avez une fonction publique et une grande partie du secteur privé aux 35 heures, vous n'avez pas assez de gens pour travailler parce qu'ils sont pas là, hein, concrètement. Et deux, vous ne dégagez pas assez d'argent pour financer des politiques publiques. Et donc on se retrouve dans une situation où je pense que même aux États-Unis, où ils ont à peu près moitié moins d'impôts en proportion, ils ont un système judiciaire qui est efficace parce que ils sont beaucoup plus riches que nous. Mais c'est un choix de société. On a fait le choix du farniente. Voilà le résultat.
Les 35 heures, c'était pour embaucher plus de personnes.
Oui, ça n'a pas marché. C'était une connerie sans nom.
Ah si, on a embauché beaucoup de cadres, mais pas assez de gens sur le terrain.
C'était une connerie sans nom.
Tu vas dans les hôpitaux, tu vas en
faire. On a aussi plein d'emplois aidés.
Ah, les
voilà pour occuper des gens.
Voilà pourquoi on n'a pas.
Pas pour les faire travailler, pour les occuper.
Ludovic, merci d'avoir appelé au 3216. On parlait de l'eau et des restrictions d'eau. Il y a un syndicat agricole, la coordination rurale, vous savez, les bonnets jaunes, qui appelle les agriculteurs à ne pas respecter les restrictions d'eau. Pourquoi? Eh bien, on va leur passer un coup de fil parce qu'on, c'est vrai qu'il n'y a plus d'eau. Il y a un problème de sécheresse un peu partout en France. Et pourtant, ils disent qu'il faut continuer à irriguer. Donc, ne pas respecter les restrictions d'eau. Un appel à la désobéissance. La coordination rurale va devoir s'expliquer face aux grandes gueules. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
8h25, la suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Vous le savez, cette semaine, dans les Grandes Gueules, nous vous offrons un séjour de 48 heures, de 2 jours avec une nuit dans un hôtel pour 4 personnes au parc Astérix. C'est un séjour familial, hein, 2 adultes, 2 enfants. L'occasion de profiter des 50 attractions et spectacles pour toute la famille pendant l'été gaulois. Alors c'est simple, hein, pour remporter votre séjour au parc Astérix, vous envoyez le mot parc au 732-16, parc au 732-16. Il y a un gagnant chaque jour ou une gagnante, donc à vous de jouer, à vous de gagner. Et rendez-vous tout à l'heure à 11h20. On est un peu stupéfait d'apprendre que la coordination rurale, mes chers Grandes Gueules, appelle les agriculteurs à ne pas respecter les restrictions d'eau, parce que vous le savez, la sécheresse s'étend à peu près sur tout le territoire, donc il y a ces restrictions d'eau qui concernent aussi les agriculteurs. Patrick Legras est avec nous, il va devoir s'expliquer, c'est le porte-parole de la coordination rurale. Monsieur Legras, bonjour, bienvenue dans les Grandes Gueules. Je lis votre communiqué, vous écrivez « Les interdictions, restrictions d'irrigation ne cessent de pleuvoir de toutes les préfectures de France. Paysans, ne les respectez pas et continuez d'irriguer. » Pourquoi vous encouragez les agriculteurs à désobéir ?
Alors, premièrement, je vous remercie de m'appeler, mais déjà, je ne suis plus porte-parole de la coordination rurale nationale. Je suis président de la région des Hauts-de-France. Après, sur le dossier, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est le président ou un de ses adjoints. Après, sur le fait, il faut être
clair. Mais vous l'assumez pas alors ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut assumer le fait que il se passe tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que au niveau des conditions climatiques et des réserves d'eau, on a quand même un gros problème. On a, c'est sûr, avec la nouvelle réglementation, on va augmenter les réserves d'eau, mais cette année, on n'en a pas suffisamment. Ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, l'alimentation pour les animaux, il va manquer. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion avec le gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'il impose un état de fait, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'irrigation, pour que ce soit la réglementation. Tout est imposé, il n'y a pas de discussion.
Oui, mais dans le projet de loi d'urgence agricole qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de débats, mais il y a quand même l'idée de vous permettre de stocker plus d'eau.
Tout à fait, c'est une bonne chose. Mais
bon, alors pourquoi tout d'un coup appeler à désobéir à ce moment-là ?
Le problème, c'est un peu comme avec la ministre de l'écologie, c'est-à-dire qu'elle doit démissionner puis elle ne démissionne plus parce qu'on lui a fait des promesses. Et je pense que les promesses sur la réglementation à outrance de l'eau en fait partie, comme certainement sur la suppression des matières actives qui doivent être réintégrées. Le problème de cette loi, elle va être faite, les bassines, mais les bassines ou les bassins ou les réserves, elles vont être faites dans 2 ou 3 ans. Et on l'a vu lorsque l'année dernière, il pleuvait beaucoup, on n'avait pas besoin. Et cette année où on a besoin énormément d'eau, on est obligé aujourd'hui pour préserver, sauver ce qui est sauvable, d'arroser les plantes de printemps, parce que maintenant c'est les plantes de printemps, puisque les blés ont été réservés pour sauver les maïs, pour sauver l'herbe, pour sauver les petits pois, pour sauver les pommes de terre. On a besoin de cette eau et le but, c'est quand même pour vous nourrir, hein. C'est pas
excusez-moi,
pour nourrir les Français.
Excusez-moi, monsieur Legras, mais vous avez l'air de parler comme si vous étiez concerné au même titre que les collectivités, les particuliers. Je suis désolée, mais les arrêtés préfectoraux comportent des clauses de dérogation pour les agriculteurs, notamment pour préserver l'abreuvement du bétail. L'accès à l'eau pour l'abreuvement et l'hygiène des animaux reste tout à fait autorisé, et ça, quel que soit le seuil d'alerte du département. Et par ailleurs, il y a des cultures spécifiques, il y a des aménagements et des dérogations qui sont faites, notamment pour le maraîchage, l'arboriculture ou la production de semences, qui sont faits pour vous permettre, même avec des seuils d'alerte extrêmes, de continuer d'utiliser l'eau là où les particuliers, eux, ne l'ont pas pour leur piscine ou leur jardin, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc n'essayez pas de faire croire que vous êtes sanctionné par les arrêtés préfectoraux au même titre que le particulier qui doit arroser les 3 fleurs de son jardin.
Madame, vous êtes bien gentille. Mais qu'est-ce qui va compenser la perte de chiffre d'affaires et la perte de revenus aux agriculteurs qui vont perdre leur récolte? Là, c'est toujours pareil. C'est-à-dire la préfecture, l'administration, les mairies, les com, tous ces gens-là, ils ont leur salaire garanti, ils vont rien perdre. Alors évidemment, ils ont une grande philosophie.
Mais bien sûr, monsieur.
Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez une grande philosophie sur la gestion de l'eau, mais qu'est-ce qu'on fait? Hein, on trouve de l'argent, des milliards pour les data centers qui vont consommer de l'eau, on trouve des milliards pour les éoliennes, mais on trouve rien pour les agriculteurs. Donc il y a un moment...
Bah, c'est pas vrai, il y a beaucoup d'aide pour les agriculteurs.
Et le pire, c'est comme j'ai dit hier, mais ça m'a été coupé, évidemment, on m'a retiré des réseaux l'intervention, on est toujours dans l'urgence. Ça fait 10 ans qu'on est dans l'urgence, parce que les décisions qui ont été prises, ça, elles sont toujours prises au dernier moment. Comme ça, on verra plus tard. Et là, plus tard, vous ne serez plus au gouvernement ou ça ne sera plus les mêmes.
D'ailleurs, le projet de loi s'appelait la loi d'urgence agricole. C'est vrai que vous n'avez pas tort. On aimerait avoir des gens qui prévoient
les restrictions d'eau, monsieur Legras.
Ça fait 4 ans qu'on dit qu'il y a des problèmes dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour les revenus, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, les
on vous interroge sur la question des restrictions d'eau qui concernent tout le monde, monsieur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais attendez, c'est pas à peine de nous hurler dessus. On n'y est pour rien, on n'est pas au gouvernement. Nous, ça fait des années et des années qu'on soutient les agriculteurs aux grandes gueules. Donc, vous n'allez pas nous expliquer que vous vivez dans une situation catastrophique et calamiteuse. Vous êtes sans doute les actifs les plus appauvris de ce pays. Il n'empêche que aujourd'hui il y a des restrictions d'eau et ça n'est pas la question des salaires des agriculteurs. On peut tout à fait l'entendre, mais tout le monde est soumis au changement climatique, aux restrictions d'eau, les agriculteurs comme les autres. Mais encore une fois, vous avez des dérogations et c'est heureux pour les bêtes et pour certaines semences. Donc à un moment donné, il faut pas non plus sentir pousser des ailes et estimer que vous avez droit à la désobéissance. Excusez-moi.
Je vous répète qu'on ne sait pas pousser des ailes. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une discussion. Et que la priorité, comme vous dites très bien, ils aillent aux particuliers ou aux centrales nucléaires ou à ce que vous voulez, mais qu'il y ait une discussion. Là, c'est un monologue. On est dans un monologue et on sait très bien que derrière tout ça, il y a Madame Barbu, il y a Madame Pannier-Runacher, il y a toute cette...
Madame Barbu,
oui, Monsieur Legras, on est d'accord quand même, ça fait plaisir à personne, ces restrictions d'eau.
Absolument.
Les pouvoirs publics qui les décident, ils ne les décident pas. Pour emmerder les agriculteurs, ils les décident parce qu'il y a une pénurie d'eau. C'est un problème qui est plutôt devant nous que derrière nous. Et ça va être de plus en plus fréquent et prégnant comme problème. Donc
c'est pour ça qu'on a demandé depuis des années qu'il y ait une augmentation des réserves. Et ça fait 4 ans que, ben évidemment, je vais prendre l'exemple du lac du Caussade où il y a encore des pénalités ou des procédures. Ce que l'on souhaite, la décision qui a été prise, il faut être clair, elles sont bonnes. Mais là, aujourd'hui, je vous répète, on est toujours dans ce phénomène d'urgence où aucune décision n'a été prise.
Là,
aujourd'hui, le fait de ne pas arroser, je vais vous prendre un exemple parce que ça, c'est concret. Le fait de ne pas arroser, de perdre des tonnes de production agricole qui vont pour le consommateur. Il faut qu'on en parle et il faut qu'il y ait autour de la table qu'on en parle pour pas que les gens soient encore plus dans la détresse.
Je suis assez d'accord avec vous parce que qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme on ne stocke pas suffisamment l'eau, parce que on sait toutes les réticences qu'il y a au stockage d'eau, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce gouvernement, où à la fois tu as Madame Genevard, ministre de la Culture, et Madame Barbu, c'est quand même des gens qui sont pas sur la même planète concernant toutes les questions d'environnement, d'écologie, mais ils sont dans le même gouvernement. Et on voit bien d'ailleurs que ça a posé un problème, puisque Madame Barbu voulait claquer la porte. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure.
Et donc t'as ça.
Et dans un deuxième temps, donc les agriculteurs vont perdre une partie de leur production, et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va les subventionner, on va devoir dégager de l'argent pour les aider, de l'argent public.
Ah oui, comme
donc
là,
tout ça, c'est de la mauvaise.
Aujourd'hui, c'est pas prévu. Hein.
Non, mais c'est pas prévu, mais vous
y arrivez. Mais ce sera fait, comme à chaque fois.
Peut-être pas complètement, mais vous les aurez, on sait très bien comment ça se passe. Et donc, ça va être de l'argent public. Donc, en fait, tout ça est mal géré. Parce qu'au final, ça va nous coûter très cher. Si on avait stocké un peu plus d'eau, ça nous coûterait moins cher.
Il faut assumer deux choses. C'est un, effectivement, de faire
la gestion à la petite semaine.
Là où c'est possible, plus de retenue d'eau l'hiver, l'automne et l'hiver. Mais ça n'est pas possible partout parce que les nappes phréatiques ne sont pas remplies à ras-bord partout en automne et en hiver. Non, pas partout.
Mais pas partout.
Il y a beaucoup d'eau. En tout cas, il faut le faire là où c'est possible, premièrement. Mais deuxièmement, moi, je pense qu'on doit, pas là demain, mais à moyen terme, on doit adapter les cultures au nouveau climat. C'est-à-dire que, par exemple, le maïs qui est très consommateur d'eau, il y a des régions dans lesquelles il ne faut plus faire de maïs. On est obligé de s'adapter, parce que si on ne s'adapte pas, le problème va se reposer tous les ans. On doit évidemment adapter ce qu'on cultive au climat des régions dans lesquelles on cultive ce qu'on cultive.
Monsieur Legras, vous êtes d'accord avec ça?
Je suis d'accord avec une chose, mais il aurait fallu que vous appeliez un autre syndicat, pas la coordination rurale. Quand on dit qu'on va donner des primes, la coordination rurale, sa devise depuis 30 ans, c'est des prix, pas des primes. Donc on ne veut pas de primes, on ne veut pas de compensation. Gouverner, c'est prévoir, ça a été dit par des grands hommes politiques. Qu'est-ce qu'on prévoit en ce moment? On est dans l'urgence, et je pense qu'en France, c'est une doctrine l'urgence. On est dans l'urgence, au niveau de l'agricole, on est dans l'urgence oui. au niveau des pompiers, puisque hier j'étais...
Mais en urgence au niveau de la canicule avec des clims voilà. qu'on
oui,
achète...
Oui, mais monsieur Legras,
mais je suis d'accord avec vous. Mais
gouverner, c'est aussi bien le court terme que le long terme. Je suis désolée, mais pour 2027, le candidat ou la candidate qui tient à la fois le court terme, c'est-à-dire qui aide effectivement ceux qui aujourd'hui sont en difficulté, notamment les agriculteurs, mais qui voient très loin, et notamment la question de l'eau qui va être absolument fondamentale, mais pas qu'en France, à l'échelle de la planète. La plupart des géographes, des géopoliticiens, etc. le disent, les prochaines guerres, ce seront des guerres de l'eau. On le sait très bien, le monde entier, que ce soit l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, tout le monde est concerné par, va être concerné par la pression sur l'eau, et en particulier évidemment l'eau potable, car comme vous le savez, on est à moins de 1% de l'eau disponible sur la planète, qui est de l'eau consommable et potable. Donc
la guerre de
ça,
l'eau.
Vous, je vois souvent que la coordination rurale, elle est pour que on réponde immédiatement aux problèmes des agriculteurs, et bien sûr qu'on le comprend, puisque votre comptabilité, c'est à la fin de l'année. Mais ce qui nous attend devant, et comme Charles vient de l'évoquer, c'est une nécessité de profonde adaptation du modèle agricole français, et notamment pour sortir de l'agriculture intensive et revenir à un modèle paysan. Alors, je suis contente dans votre communiqué de presse que vous évoquiez les paysans. Oui. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui en France, hélas, on a plus affaire à des grands agriculteurs qu'à des paysans.
Alors, deux choses, madame. Sur la gestion de
ça
l'eau,
sera
la,
dernier
France,
mot.
La France est un des pays qui gère le moins bien l'eau. C'est-à-dire que 20% de la consommation de l'eau, c'est déjà des fuites. Et les fuites, quand c'est l'État, on vous dit, mais ça, nous, il nous faut 10 ou 15 ans. Premier point. Oui, deuxième point, sur la gestion de l'eau, c'est-à-dire que le traitement de l'eau et la réutilisation de l'eau, on est à moins de 8%. Il y a des pays qui sont à 20, 30, 40%.
Je sais.
Donc, mettre tout sur l'agriculture qui veut uniquement des prix et vivre sur leur exploitation, c'est un peu facile, mais il y a un moment, à force de dire qu'il y en a 20 ou 30 ou 40% qui vont crever dans les 24 mois, et que personne ne bouge. C'est pour ça qu'on met en place, on a dit qu'on allait, il fallait chercher des fonds souverains pour évidemment voir à plus long terme. Et sur l'histoire, l'approche que vous avez sur l'eau en disant que c'est fondamental, on a toujours dit que l'eau c'était la vie et on en est conscient. Mais aujourd'hui, le manque d'eau, c'est plus la vie, c'est la mort des agriculteurs. Et ça, on peut pas l'accepter.
Mais merci.
Ça, il faut qu'on se mette autour de la table pour en discuter et non pas que ce soit la ministre de l'écologie, Madame Pannier-Runacher ou un autre, qui impose aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire.
Ça, c'est vrai qu'il va falloir aussi que on sorte de l'ambiguïté avec un Emmanuel
la
Macron.
Macronie, c'est tout sauf sortir d'ambiguïté.
Il fait quand même le grand écart sur cette question. Ah. On en reparlera parce que Madame Barbu, finalement, un faux départ. Vous avez vu, elle reste. Ça tournait un peu ridicule cette histoire. On en parlera tout à l'heure dans les grandes gueules. Merci Monsieur Legras. On a posé quand même la question. Hein. Que pensez-vous de ces appels à la désobéissance, hein, la coordination rurale qui appelle les paysans à ne pas respecter les restrictions d'eau. Est-ce que c'est irresponsable? Vous dites oui à 34,9% et vous dites non à 65,1%. Donc vous êtes plutôt du côté de la coordination rurale, de ce qu'elle dit dans cette histoire. Dans un instant, Anaïs Sens nous rejoint pour l'OSF. On s'en fout pas. À tout de suite sur RMC. C'est RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules, 9h44 sur RMC, RMC Story, avec Bruno Poncet, le cheminot, la prof d'histoire géo Barbara Lefebvre et Charles Consigny, l'avocat. Anaïs Sens nous a rejoint.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. La DJ Barbara Butch qui va porter plainte contre LFI pour provocation à la haine et à la violence. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
Moi, j'avoue que je m'en fous à moitié.
Barbara.
On s'en fout pas.
Bruno.
Non, on s'en fout pas.
Sur BFM TV hier soir, elle se disait toujours en état de choc à la suite de son concert interrompu à Grenoble samedi dernier par des militants pro-palestiniens et insoumis. L'artiste avait subi des jets de projectiles et avait même dû être exfiltré de la scène. Bruno.
Et je pense qu'elle a raison parce qu'en fait, étant moi convaincu de la liberté d'expression, je trouve qu'elle a quand même le droit de faire son travail. Que tu veuilles pas aller la voir, c'est une chose. Que tu veuilles tracter avant son concert pour dire que t'as pas envie, faut pas aller la voir pour x, y raison, ok. Mais de lui jeter des trucs, de la menacer, je trouve que c'est ça va trop loin et elle a raison de porter plainte. Mais comme d'autres artistes qu'on avait aussi menacés, on
porte plainte. Elle a un concert d'ailleurs dans Lyon samedi et l'élu insoumis du coin a lancé un appel au boycott, etc.
Ouais, mais si c'est qu'un appel au boycott, ça va. Oui. C'est pas prêt de les jeter des canettes sur
bien,
la gueule.
Mais tu vois bien comme ça dégénère. Non,
mais ils persistent ces signes.
Ah, bah, ils ont raison. Non, mais c'est ça qui est beau avec la LFI, c'est qu'ils persistent toujours. Non, elle a raison de porter plainte, Barbara Butch.
Est-ce que ça va vraiment aboutir? Enfin, sincèrement, moi, ces plaintes-là.
Justement, je pense que lorsqu'on est une femme juive de gauche, je pense que la justice aura beaucoup plus d'attention à son égard que quand on est une femme juive de droite et qu'on est victime de menaces et d'intimidation de la LFI. On n'a pas le même traitement par la justice. Voilà, je pose ça là.
Charles, il s'en fout.
Non, je pense que tout le monde est d'accord. Moi, je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison de porter plainte. En revanche, diriger la plainte contre la France insoumise en tant que personne morale,
non, ça marchera pas.
Me paraît.
Mais parce que c'est un élu insoumis qui a organisé la manif.
Oui, mais je ne pense. Oui, mais dans ce cas-là, il faut porter plainte exactement contre l'élu en question. Si c'est la France, c'est pas la France insoumise toute seule qui a fait ça.
Les GG, autre exfiltration, celle du maire d'Alès, de son domicile en pleine nuit par le RAID en début de semaine en raison de sérieuses menaces provenant de là des aides-mafias. Eh bien, hier soir, des hommes se revendiquant de l'organisation de narcotrafic ont publié une vidéo dans laquelle ils nient toute implication. Écoutez.
Ah oui.
Il y a quelques jours de cela, un maire a été victime de menaces et d'intimidation, un acte lâche et odieux. Nous condamnons fermement cet acte de fer. Et nous sommes en aucun cas responsables de cet acte criminel, méritant d'être condamnés de la plus cruelle et stricte manière.
Bon. Alors, il faut décrire la scène.
On a rien compris.
Ils sont tous en noir, tête baissée d'ailleurs, masqués, visage dissimulé, et il y a donc au milieu la personne, le représentant de la dizaine mafia. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas précisément de qui il s'agit. Qui lit ce message et qui dit non, on n'est pas du tout responsable de ce qui se passe
et
à l'Est.
Et on condamne même les menaces.
Parce qu'il faut rappeler que c'est la dizaine mafia nouvelle génération. Qui menaçait le maire, et là donc on parle
plus radical et plus identitaire.
Zizani au sein de la dizaine mafia.
Plus identitaire, c'est-à-dire?
D'accord.
Par rapport avec les drapeaux qu'on a vus sur leur.
Barbara.
Ah oui, non, on s'en fout pas.
Bruno.
On s'en fout pas du tout.
Bah alors, dis-nous, Bruno.
Non, moi, je voudrais juste dire et rappeler à tout le monde qu'il y a 15 jours, l'ennemi public numéro 1, c'était Hamza Ladouane. Voilà, un gamin de 14 ans qui arrose les gens et qui insulte les femmes.
Ennemi public numéro.
Je sais pas, on parlait que de la télé.
Ça a fait sourire plus qu'autre chose.
Moi, ça m'a pas fait sourire parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, les vrais problèmes, ils sont là. C'est qu'à un moment donné.
Les vrais ennemis, ce sont eux.
Je pense que les vrais ennemis et de la nation et de la démocratie, comme l'a dit le petit de Marseille, là, dont son frère est décédé sous les.
Amine Kessassi.
Mais c'est pas pareil, en fait.
C'est pas pareil,
mais Hamza, c'était la petite déco. Je
vais demander mon avis, c'est pas le tien, c'est moi. C'est moi la grande gueule. Toi, t'es qu'une des productrices. Laisse-moi tranquille. Un mépris de classe. Allez, non, mais le truc, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu vois, le vrai sujet, c'est que le maire, il veut mettre des caméras pour filmer les points de deal. Oui. Et à un moment donné, donner peut-être des informations à la police pour qu'elle les intervienne. Vu qu'il n'y a plus de police sur le terrain, t'es obligé de faire ça parce que t'as plus personne qui vient faire le taf. Et en fait, derrière, on le menace de mort. Il a fait avoir une voiture explosive à côté de chez lui. C'est ça, les vrais ennemis. Et ça, à un moment donné. Et aujourd'hui, Darmanin et Nunes qui viennent nous casser la tête à longueur de journée sur des sujets qui n'existent pas.
Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est surtout que t'as la DZ Mafia qui prend la parole pour dire non, là c'est pas nous. Enfin, c'est quand même dingue. Non,
en tout cas, ça fait un peu penser quand même à la Corse. Moi, ça me fait un peu penser
au moins bien.
Au conflit entre mafia, militants indépendantistes.
Et ces vidéos, on les a vues.
Avec ce genre de vidéos et ce genre de.
Mélangez pas la Corse avec ça.
Conflit interne.
Pardon, on avait des.
Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est
un autre niveau.
C'est l'importation des méthodes mafieuses et des codes mafieux. Et c'est sûr que ça n'est pas rassurant.
Mais ça sent le fait qu'à plein nez. Il y a même pas une arme. En fait, d'habitude, quand ils faisaient des vidéos, là, des aides mafia, ils avaient des pétards, mec.
Je crois pas. Que ce soit un fake.
Les black blocs que vous nous envoyez dans nos manifs avec des gamins qui ont 14 ans,
un kawaii
de Décathlon, puis un petit bonnet, puis une paire de lunettes. En fait,
c'est vrai que même la façon dont il lit le message.
Non, parce que vous savez, on croit qu'on imagine Pablo Escobar.
Non, mais
c'est des pieds nickelés, c'est des jeunes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont violents.
C'est vrai qu'ils envoient ce message.
Qui arrive à tuer un chauffeur Uber qui a rien fait comme pieds nickelés. Bon, bref.
Mais c'est des pieds nickelés justement.
Leur méthode là, des aides mafia NG, etc. L'expression NG, nouvelle génération, c'est exactement ce qu'utilisent aussi tous les cartels sud-américains. Donc moi, j'aurais pas comparé du tout à la Corse, j'aurais plutôt comparé à une espèce de copier-coller un peu ridicule, hein, parce que c'est à la française, à la wesh-wesh des quartiers, c'est un peu mal fait, de ce que font les narcos sud-américains.
Ça.
Et dans les gangs sud-américains, tu as différents clans.
Ouais.
à l'intérieur du même gang, t'as le NG, NG1, NG2, c'est comme N+1, N+2, N+3. Et en fait, ils sont tous en train de se faire la guerre les uns les autres. Donc là, on a peut-être affaire à une espèce de guerre de gang à l'intérieur de la DZ. Surtout qu'il y a une grande partie des chefs de la DZ Mafia qui sont en prison.
Oui, en prison.
Oui, donc aujourd'hui, t'as les nouveaux qui veulent prendre la place des vieux en prison. Les vieux en prison qui veulent pas qu'on leur pique la place. Donc à mon avis, on est en plein dans une guerre interne.
C'est des guerres de territoire.
Voilà. Mais si cette guerre interne, elle se fait sur le dos d'élus, de famille d'élus, parce que demain, qui dit qu'il n'y aura pas le gamin d'un élu qui sera tué ou la femme d'un élu qui sera violentée, ça peut bien arriver, ça. Et là, je te dis, c'est pour ça que j'aime pas la comparaison avec la Corse. On est plutôt sur l'Amérique du Sud, parce que les Corses, ils se sont jamais comportés comme ça.
Je rappellerai qu'Amine Kessassi à Marseille, deux de ses frères sont morts, et le dernier, c'est sans doute parce que les tueurs se sont trompés. Donc on imagine quand même, et il est donc protégé sous protection policière. On enchaîne, ma chère Anaïs.
Les GG, quand des spectateurs de concerts décident de se faire dessus littéralement pour ne pas perdre leur place dans le public, ce phénomène dont se fait l'écho le journal Libération s'appelle le crotte-rock.
Crotte-rock.
Dans les gros concerts, aller aux toilettes signifie souvent perdre sa place. Donc, alors certains fans ont trouvé la solution, faire la petite, voire la grosse commission sur eux. Une tendance de plus en plus plébiscitée, comme évoquée par la pop star Olivia Rodrigo, qui avait avoué sentir une odeur fétide depuis la scène lors d'un de ses concerts. Voilà. Petit papier du Libération.
Non.
C'est une pop star américaine.
Non, mais alors, donc, en fait, les gens, de peur de perdre leur place, se chient dessus, quoi, en fait. Hein,
ça parle
carrément.
Notre fan de concert.
Alors, Bruno, toi qui vas souvent voir des concerts, est-ce que tu peux témoigner que ça existe?
Des pogos.
Alors, moi, dernièrement, d'ailleurs, je dois à mon dernier concert une sciatique carabinée d'être resté debout dans la fosse de System of a Down. Moi, j'ai pas senti, hein. J'ai pas vu, et pourtant j'étais dans la fosse, j'étais assez près. Hein.
Oui, mais
j'ai
si tu vas aux toilettes, tu perds ta place.
Mais en fait, tu t'en fous parce que, mine de rien, alors maintenant, tu vois, il y a. Et c'est pour ça que je comprends pas trop le truc, parce que aujourd'hui, ils font dans la fosse, ils font les VIP. C'est-à-dire qu'il faut que tu payes plus cher pour être devant.
Oui.
Et en fait, comme t'es VIP, bah t'as un peu de place, mine de rien. C'est
et
ça.
Puis t'as un bracelet VIP, donc tu peux revenir.
Et donc tu peux revenir. Après, tu seras peut-être pas devant. Mais moi, je pense que c'est plutôt. Moi, j'aurais plutôt vu ça, j'en parlais avec Barbara à la pause. Je verrais plutôt ça dans les concerts de K-pop, où les gamins, ils payent tellement cher pour être devant avec des bracelets, des machins lumineux, que à mon avis, je me dis que les gamins vont pas partir, mais ils préfèrent se pisser dessus que de se barrer à l'hôtel et revenir.
T'as payé BTS ou Blackpink 1000 balles ou 1500 balles le carré or, dire t'as pas intérêt à faire pipi, donc il vaut mieux effectivement mettre une couche. Donc il faut vendre des couches Téna juste avant, faut pas dire les marques, vendre des couches juste avant les concerts. Non mais je trouve que l'humanité avance bien. Moi je trouve que
là,
vraiment on est vers du mieux.
Plein progrès, moi, je
et ça, c'est le progrès. J'aime ce progrès.
Mais après, Charles.
Non, moi je comprends pas pourquoi les gens vont voir des concerts déjà.
Ça y est, c'est reparti. Il est là notre vieux.
Je trouve qu'il n'y a rien de plus emmerdant qu'un concert. Je me souviens d'être allé à La Rochelle, tu sais, au Francophonie de La Rochelle, traîné là par des amis locaux, voir un concert de M.
Oui.
Mais je me suis rarement autant emmerdé de ma vie. Je trouve qu'un concert, c'est vraiment le dernier.
Moi, j'ai vu
spectacle.
En concert, c'est super les concerts de M.
Moi, je n'arrive pas à aller voir des concerts.
Non, mais c'est un opéra.
Qu'est-ce que tu n'aimes pas?
T'as pas un chanteur.
Il aime rien, Charles.
Je trouve que c'est un ennui mortel.
Si oui, parce que tu n'aimes pas le chanteur.
On est là, on attend, il est là à chanter ses chansons qu'on a déjà dans notre iPhone. Je vois pas l'intérêt.
T'as pas un chanteur que tu aimes, que tu voudrais voir en concert?
Maurice Chevalier, peut-être.
Oui.
Jacques Lantier?
Jacques Lantier.
Henri Dess?
J'écoutais Maurice Michel Chevalier quand j'étais enfant.
On avait un disque,
je me souviens très bien de la chanson Ma Pomme, que j'adorais.
Bien sûr.
Ah oui.
On va peut-être la retrouver. Alors, défi à la régie.
J'avais une pièce.
Retrouvez-moi Ma Pomme de Maurice Chevalier.
Dans notre appartement de la rue de Seine, le bureau jouxtait ma chambre. Et je pouvais le matin, seul, brancher les disques qui étaient dans la chaîne IFI. Il y avait Maurice Chevalier.
On comprend tout.
Mais pour autant, je ne serais pas allé à un concert de Maurice Chevalier.
Ça devait bouger.
Donc non, je comprends pas. Même une fois, je suis allé voir la grande cantatrice Barbara Hendricks.
Oui, magnifique.
Au théâtre des Champs-Élysées. Pareil, un ennui mortel.
Ah bon,
j'ai fini par m'allonger par terre dans la loge pour faire une petite sieste en attendant que ça passe. Ce que j'ai fait d'ailleurs aussi au concert de M. J'étais chaque fois dans la loge.
Ah oui, quand même, heureusement. Voilà.
Mais non, je peux pas.
Ah oui, d'accord, ça.
En plus, avec ce que vous décrivez là.
Un concert de Maurice Chevalier, c'est sûr que ça doit sortir le pipi, mais
je suis renversé dans mes convictions.
Mais Maurice Chevalier,
il est plus de ce monde,
il y a longtemps. Bon.
Allez, ni lui ni ses fans ne sont plus de ce monde.
Dans un instant, on va retrouver ma pomme de Maurice Chevalier. Dans un instant, on va s'interroger. Est-ce qu'il faut payer plus cher pour passer plus rapidement devant le médecin? Il y a des centres médicaux qui le proposent. Vous payez 30 euros de plus et vous avez tout de suite un rendez-vous. Médecine à deux vitesses, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.